L'audience est ouverte.
L'audience est ouverte. Eh bien, vous pouvez vous rasseoir maintenant. L'audience est ouverte, la nouvelle émission de Radio Rancière consacrée à la justice, son histoire, ses rouages, son fonctionnement, ses dysfonctionnements, pourquoi pas, mais aussi ses procès les plus célèbres. Chaque mois, nous avons rendez-vous avec Maître Arbouche, avocat au barreau de Chartres puis de Paris pendant 30 ans et spécialiste en droit pénal. Vous avez également, Maître, je le précise, enseigné le droit à l'université, écrit et monté pour le théâtre des pièces qui ont pour thème la connaissance du système judiciaire. Alors, la semaine dernière, nous avons évoqué l'histoire de la justice française, parlé de l'affaire des poisons qui défraya la chronique sous le règne de Louis XIV. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'organisation du système judiciaire. Et là, je vais faire mon Michel Chevalet. La justice française, comment ça marche?
Oui, alors, ça c'est une question... traître, c'est lâche, parce que comment ça marche? Je ne peux que vous répondre une seule chose. Vous savez, c'est compliqué. Et comme dirait même François Morel, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on va effectivement décortiquer un petit peu le système et surtout se dire que souvent cette justice a... Pour le justiciable, enfin, je crois, hein, avant toute chose, ça fait peur.
Ah
parce
oui.
Parce que c'est un monstre illisible. Quand vous dites comment ça marche, c'est ça que ça veut dire, en fait.
Bah oui, et puis on a surtout toujours peur de ne pas être dans la loi, finalement.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques exemples où la justice aveugle, ce rouleau compresseur s'est déployé et se déploie encore. Et ça fait un peu peur.
Alors on pourrait peut-être partir des trois principes fondateurs. Parce qu'il y a trois principes fondateurs.
Allez-y.
Le premier, la justice est rendue au nom du peuple français. Alors, ça veut dire quoi, ça, exactement?
Exact. Je mets exact pour l'instant. Je mets dans mes petites notes. Exact. Dites-moi les autres principes.
Il y a tous les hommes sont égaux devant la justice.
Oui, exact.
Ouais. Point d'interrogation ou non?
Pour l'instant, je mets exact. Okay. C'est exact.
Et... Les juges sont indépendants des pouvoirs législatifs et exécutifs.
Exact.
Point d'exclamation.
Non. Exact. Okay. Non, c'est bien. Peuple français, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette justice, elle n'est pas celle d'une caste. Ça veut dire que nous avons mandaté des gens qui ont organisé un système. Alors, je vais essayer d'être plus clair. L'illustration parfaite, c'est la cour d'assises. Bon. La cour d'assises, dont on sera amené à reparler, ce sont des jurés tirés au sort. Bon. C'est monsieur et madame tout le monde, vraiment. Donc, quoi de mieux que rendu au nom du peuple français? Ce peuple français-là est représenté à un moment donné par les jurés. Il se trouve que la justice professionnelle n'est pas rendue par des non-professionnels, mais par des juges, dont c'est le métier. Et ils ne la rendent pas pour leur compte à eux, comme sous l'Ancien Régime dont on avait parlé. Le seigneur rendait la justice pour son compte à lui, même s'il devait rendre compte au roi éventuellement. Mais quand on allait sur ses terres pour chasser, c'était lui qui était lésé, il rendait la justice de sa terre. Là, non, le juge, il ne connaît pas les gens. Voilà. Et ça nous renvoie à l'indépendance. L'indépendance de la justice, oui, puisque... la séparation des pouvoirs, telle que Montesquieu l'a décrit, le judiciaire est un des pouvoirs indépendants. C'est-à-dire qu'il n'est pas le président de la République, il n'est pas les assemblées parlementaires, il est ailleurs, et cet ailleurs, c'est qu'on ne peut pas, on en reparlera, c'est un sujet de préoccupation, mais on ne peut pas bouger un juge qui ne plairait pas au pouvoir politique. Il faut le dire haut et fort, parce que nos concitoyens, à la suite il y a toujours des affaires qui sont sensibles, qui se passent mal, etc. Et cette tendance aujourd'hui que l'on a à généraliser le système, à tous pourris, etc. Moi, je m'inscris vraiment en faux contre ça au quotidien. Non, c'est pas parfait, hein. C'est pas parfait. Mais si on prend l'ensemble des pays du monde, on va prendre nos deux mains et les 10 doigts. Dites-moi les 10 pays du monde dans lesquels la justice est rendue de la même façon que la nôtre. Voilà.
On est bon.
On est bon. C'est comme les policiers. Il y a des policiers qui sont des gens malhonnêtes, c'est sûr. Mais la police n'est pas corrompue en France. On n'est pas dans des systèmes. Alors, je ne vais pas me lancer dans des grandes diatribes, mais je tiens à dire haut et fort, notre système judiciaire, on ferait bien mieux de l'encourager plutôt que de le taper. Voilà. Et j'en veux juste une petite preuve, si vous le voulez. Quand la mafia, les premiers qu'elle descend,
oui,
c'est les juges.
C'est les juges.
Les dictateurs, les premiers qui tuent, c'est les avocats et les deuxièmes, les journalistes. Ouais. Bienvenue. Donc, ça veut dire que ce système-là, il a un sens. Après, on peut toujours l'améliorer et il faut l'améliorer.
Bon, ça existe quand même le coup de téléphone des hommes politiques.
Ça
peut arriver. On a eu quelques exemples dernièrement dans l'actualité, mais bon, c'est pas prouvé non plus.
Moi, c'est ça. Moi, en tant que citoyen, je suis un peu comme vous. Je souris, je dis ouais, d'accord. Mais en tant que professionnel, je puis vous dire une chose. J'ai pas mal plaidé, plusieurs milliers de dossiers. Dans les dossiers, il y a deux fois où j'ai vu des trucs un petit peu bizarres, mais qui étaient basiques. C'est-à-dire, on se disait, là, il y a des enjeux. C'était, par exemple, quand il s'agissait de quelqu'un, d'un ancien militaire, par exemple, des choses de cette nature, des secrets défense, ça existe hein, quand même. Mais bon, je n'ai pas accès à des dossiers internationaux, mais bon, faut arrêter.
Oui.
Et quant à dire que tous les hommes sont égaux, il y en a d'un petit peu plus égaux que d'autres. Quoi.
Oui. Comme disait Coluche.
De façon générale, vaut mieux être riche et en bonne santé et un homme blanc. Oui. Mais par rapport à d'autres systèmes, je vous assure qu'on n'est pas pire. Quoi. Il faut aller aux audiences, elles sont publiques. Ça aussi, c'est une caractéristique de notre système judiciaire. Les audiences sont publiques.
Mais en règle générale, les Français se passionnent quand même pour les procès. Hein.
C'est vite du fait divers, et puis c'est assez croustillant, et puis il y a des rebondissements, et puis...
Et puis on en apprend beaucoup sur la nature humaine aussi, hein.
Ah oui, ça oui, on n'a jamais fini, hein. On n'a jamais fini, on croit toujours, mais... Ah non, ça c'est... Non, les procès spectaculaires, c'est vrai qu'on aime bien, quoi. Ouais. Vous savez, 99% des procès sont pas spectaculaires, hein. Ouais. Et cette justice-là, elle est très importante. C'est celle-là, moi, à laquelle je tiens, c'est...
Ouais.
Après, BFM, ils sont sympas, mais... Enfin, ils sont sympas, non, mais je m'en fiche un peu, quoi, voilà.
Toute petite parenthèse, pourquoi vous avez fait une carrière d'avocat? Comment c'est venu la passion du métier?
Je pense que c'est les autres. Quoi.
Ouais.
C'est les autres. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas des dossiers, je défends pas des dossiers, je défends des personnes.
Ouais.
Voilà. C'est parce que j'aime bien les gens, quoi. Voilà. J'aime bien. Et puis, comme je suis pas tombé dans la marmite quand j'étais petit, je suis pas ce qu'on appelle dans notre métier fils d'archevêque. Et ben, comme j'ai eu la chance grâce aux 30 glorieuses et à l'ascenseur social d'y arriver, eh bien, j'ai eu du plaisir. J'ai compris que c'était bien. Peut-être que j'aime bien causer aussi.
C'est heureux pour moi. Merci, Maître. Alors, parlons du système judiciaire un peu. Comment tout ça, ça s'articule? Comment on en vient à un procès, par exemple?
Alors. Les principes fondamentaux, si vous voulez, de notre système sont que on a un juge indépendant, vous l'avez dit, donc un juge qui va juger, qui va être saisi soit par une personne, vous plaignez de votre voisin qui fait du bruit, vous saisissez un juge pour dire « je veux qu'il arrête de faire du bruit », soit ce juge va être saisi par une structure, la police, par exemple, le procureur de la République, dont nous reviendrons sur son rôle. En tout cas, le juge a un dossier devant lui. Il n'a qu'une seule obligation, le juge, c'est celle de juger. Il ne peut pas ne pas juger. Il y a extrêmement peu d'exemples dans l'histoire de la justice de juges qui n'ont pas jugé.
C'est-à-dire pas jugé.
C'est-à-dire de dire « cette affaire est trop compliquée pour moi » ou « je suis trop impliqué, si nous avons le temps, nous parlerons un jour d'une affaire dans laquelle le juge a refusé de juger parce que c'est les hommes qui étaient jugés, personne ne sait ce qu'on aurait fait à leur place ». Le juge n'a pas jugé, alors qu'il avait la possibilité de ne pas les condamner, hein, je vous rappelle quand même. Mais il a dit « non, je ne les juge pas ». Et il n'a pas été sanctionné, c'est rarissime. Voilà. Sinon, c'est la seule obligation du juge, c'est de juger. Voilà. Donc le juge doit juger, il doit rendre une décision motivée, c'est-à-dire qu'il doit expliquer pourquoi il décide ceci ou cela. La procédure doit être la même pour tous, et elle doit être légale, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la trouver dans des codes, doit pouvoir le dérouler de la procédure. Il y a des principes fondamentaux qui sont absolument nécessaires dans une société comme la nôtre, c'est la présomption d'innocence. On ricane un petit peu parfois avec...
Aujourd'hui, je trouve qu'elle est mise à mal par les réseaux sociaux, oui, par les médias, excusez-moi, mais autocritique.
Non, mais vous avez raison. Mais on se doit de rappeler qu'une personne est présumée innocente jusqu'au moment où elle n'a pas été reconnue coupable. C'est parfois très lourd, parce que les faits sont évidents, la personne dit elle-même « oui, j'ai fait ça », etc., on se demande un peu. Mais la présomption d'innocence, c'est quelque chose auquel il faut tenir absolument. Dans les pays où il n'y a pas de présomption d'innocence, ça ne s'appelle pas des démocraties. Voilà, vous êtes jugé déjà avant d'avoir été jugé. Donc, il y a ça, et puis il y a le droit de se défendre, et puis il y a le droit d'être indemnisé aussi si on a eu une procédure abusive. Ça, on en parle assez peu. Ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait, selon moi, mais ça fonctionne.
C'est-à-dire que, par exemple, on est devant le tribunal, oui, qui nous rend finalement une décision favorable, oui, on est en droit de demander,
absolument,
une somme.
Absolument, et surtout au plan pénal, dans les choses les plus... attentatoire aux libertés, si malheureusement vous faites de la prison et que au fin des fins, eh bien, vous ne deviez pas la faire, vous pouvez prétendre à une indemnité. Alors, il n'y a pas de quoi, acheter trois Porsche décapotables, hein, c'est d'accord. Mais le principe est là. Ça aussi, c'est important. Et ça, on l'oublie un peu.
Ça n'existe pas dans les autres pays, ça, par exemple ?
Pas partout. Dans les pays démocratiques, oui, ça s'est mis en place. D'ailleurs, la France a été un peu à la traîne. Hein. Il a fallu que d'autres montrent l'exemple. Mais aujourd'hui, ça existe. Donc quand vous avez un juge indépendant, quand vous avez l'obligation de motiver, quand vous avez une procédure qui est forcément la même pour tous, elle est écrite, on peut lire, quand vous avez une présomption d'innocence, quand vous avez le droit de vous défendre, quand vous avez le droit d'être indemnisé, si c'est...
C'est des sacrés garde-fous quand même. Hein,
ouais, voilà. Après, on n'est pas dans la perfection, mais on est quand même dans un système dont on peut dire qu'il fonctionne.
On parle du juge, là, il y a une question qui vient à l'esprit, peut-être totalement saugrenue, mais vous me le direz, c'est que le juge est aussi... diligente une enquête policière. Il participe à une enquête policière, un juge d'instruction. Pourquoi alors, ça, c'est autre chose.
Nous en reparlerons dans la séance du droit pénal. Voilà.
Très bien.
Voilà. Mais je vois que, voilà, déjà, vous êtes bien accroché, au système.
L'avocat, maintenant, l'avocat.
Qu'est-ce qu'il a, l'avocat ?
Eh ben, c'est quoi son rôle ? Comment il travaille ?
Eh bien, alors, l'avocat est là pour assurer la défense des intérêts des personnes ou des sociétés, d'ailleurs. Que ce soit les auteurs, les victimes, que ce soit le plaignant, le défendeur. Bon, ce sont ceux qui sont censés connaître l'organisation du système et pouvoir à la fois donner des conseils juridiques éclairés, c'est notre boulot, et en même temps rendre humain parfois ce qui est dur à admettre. Voilà. Nous avons dans la plupart des avocats... un rôle, je ne vais pas dire de psy, parce que chacun son métier, mais d'accompagnateur. Il faut expliquer une décision de justice. Il faut dire, quand on sait que, malheureusement, les chances de gagner tel procès sont faibles, eh bien, il faut avoir le courage, l'honnêteté de le dire. Ce n'est pas toujours facile.
Il faut le dire à son client, quoi. Il faut dire, vous irez en prison, on va essayer de faire en sorte que...
Oui, bien sûr, ouais. Ça fait partie de... Alors, après, il faut bien sûr savoir à qui on a affaire, et quand et comment le dire, mais bien sûr, oui, l'honnêteté... ça fait partie de la base. Enfin, heureusement, on n'est pas la seule profession, mais il y a faut aimer les gens, et puis faut si possible connaître le droit. Et moi, je m'inscris en faux contre l'expression de Coluche qui dit il y a deux avocats, ceux qui connaissent le droit et la loi et ceux qui connaissent le juge. Non, ça va quoi. Ce genre de truc, non.
Parce
qu'on peut connaître le juge. Je peux vous dire, on en connaît tous, à force de se voir, de se fréquenter. Je peux vous dire que non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est pas comme ça. Il faut le dire et le redire. Et là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui, de l'autre côté de leur poste, doivent dire ah non. Moi, je. Mais bon, voilà. Je témoigne de ma modeste expérience et je le dis.
Ce qui est important, c'est d'établir une relation de confiance, j'imagine, avec son client. Et le client doit tout dire, finalement, à l'avocat pour que la défense soit efficace.
Voilà. Alors, il ne faut pas croire que le client va tout dire. Il a ses petits secrets, il n'a pas envie d'eux. Mais vous disiez le mot confiance. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et d'ailleurs, dans un tribunal, il y a aussi la confiance que les magistrats doivent avoir dans l'avocat, dans son sérieux. Et la notion de confiance, c'est une notion très importante, très importante. Ces notions un petit peu désuètes sont très importantes. La loyauté, la confiance, on bâtit des choses là-dessus. Ouais. A contrario, on va pas très loin quand on n'a pas ces notions-là avec soi. Ouais. Si on veut faire des coups, on en fait un, on en fait deux. Et puis le système s'effondre là. On le voit bien, hein. on le connaît, nous.
Ouais.
On connaît ceux qui font des coups. Bon, tant mieux.
Est-ce que on peut parler du procureur ? Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre le rôle exact d'un procureur.
Alors, quand on fera une... Si vous le souhaitez, on pourra faire une émission spéciale sur la procédure pénale. Mais déjà, le procureur, si vous voulez, en droit français, c'est celui qui va poursuivre, le mot exact, c'est mettre en œuvre l'action publique. L'action publique, c'est quoi ? Vous avez un... Caricaturons, hein, vous avez un cadavre... bon, voilà, il a un coup de couteau dans le dos. Bon, c'est pas le cadavre qui va se plaindre. Bon, on sait pas qui il est, on sait pas... Il a pas de famille, c'est un pauvre diable, c'est un clochard, il y a rien qui... Eh bien, le procureur va, après avoir bien sûr reçu les informations des services de police ou de gendarmerie, hein, c'est ça, le bras armé du procureur, c'est la police et la gendarmerie, le procureur va décider d'ouvrir une enquête aux fins de connaître les conditions de la mort, etc. C'est... L'action publique, c'est quand l'ordre public a été troublé, l'ordre public est troublé par une infraction, c'est le procureur et lui seul qui peut mettre en œuvre l'action publique. Bon, il y a des petits bémols, on en reparlera le moment venu.
Ouais. Hein,
sur le lui seul, je peux être un peu plus nuancé parce que la procédure l'est. Mais le principe à retenir, c'est ça. Le proc, c'est celui qui poursuit. Voilà.
Il nous reste quelques 10 minutes, après on va écouter de la musique. Le but de la justice, finalement, c'est, vous m'avez dit, c'est à la fois protéger la société et l'individu, c'est ça ?
Oui, ben c'est le but de la justice, c'est d'éviter la vengeance, quoi, ou le sacrifice. Hein. C'est, on va protéger les intérêts de la collectivité et on va respecter les intérêts de l'individu. C'est toujours, c'est pas une bagarre, mais c'est toujours cette question de fond. Est-ce qu'on protège la collectivité ? Je prends toujours cet exemple en une minute assez rapide. Vous avez déjà pris le TGV ?
Oui.
C'est bien.
C'est pas mal.
C'est bien. C'est rapide, c'est super. Je veux dire, ça va vite. Franchement. Vous aimeriez qu'il passe au fond de votre jardin ?
Moins.
Voilà. Et donc, oui. Voilà. C'est la question. Voilà, le TGV va passer au fond de votre jardin. Ah ben non. Ah non, pas le mien. Voilà. Et pour autant, j'aime bien monter dans ouais. Voilà, c'est ça, c'est le collectif et l'individuel, c'est protéger les deux, et respecter cet équilibre. Voilà.
Ouais. La sanction, la réparation pénale, il y a évidemment la prison là-dedans. La prison, c'est vieux comme le monde aussi, c'est vieux comme l'homme ou...
Bon, non, dans les sociétés un peu moins évoluées, moins évoluées. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais on voit ce que je veux dire peut-être à travers ça. On ne s'embêtait pas trop de prison.
Ouais.
Voilà. Il y avait le bannissement. Il y a des formules qui sont des formules apparemment moins violentes que la prison, puisqu'on enferme en prison. Hein. C'est l'autorité, la loi. Il n'y a que la loi qui peut permettre d'enfermer. Une décision de justice hein, qui peut le permettre. Et puis, il y a toute la problématique de l'enfermement liée pour des raisons physiques, enfin mentales, voulais-je dire. Mais là encore, c'est très... On ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas les gens en hôpital psychiatrique pour n'importe quelle raison. Et en tout cas, c'est surveillé. La prison, c'est l'autorité de la loi qui le permet, c'est l'autorité du juge qui permet de mettre en prison. Ben sinon, autrefois, dans les tribus, on bannissait.
On bannissait. Ou on tuait, j'imagine.
On tuait, évidemment. Et il y a encore des... C'est pas des tribus, il y a encore des endroits, des lieux, et il y a encore des moments où, effectivement... qu'est-ce qui est le plus cruel, finalement ? Est-ce que c'est faire 1 an, 5 ans, 10 ans de prison ? Ou est-ce que c'est être exclu de son groupe social ? Quand on n'a que le groupe social comme référent. Que le groupe social. Sa famille. Certains le disent. C'est pas... la peine est une chose, mais ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Alors la prison, oui, c'est le moyen qu'il y a. C'est sans doute pas le moyen le plus sympathique, et puis on a bien du mal à en trouver d'autres, mais c'est un des moyens. Bon, aujourd'hui, on essaie quand même, les législateurs essaient de diminuer ces peines.
Hein. Une petite minute pour évoquer quelque chose qui est extrêmement épineux, parce que vous nous avez dit hein, tout à l'heure, et à raison, à juste raison, que la justice française fonctionnait plutôt bien, même très bien, par rapport à d'autres pays dans le monde. Pour autant, il y a ce qu'on appelle des vides juridiques. Ah, des aléas judiciaires.
Alors, le vide juridique, il est... Bon.
Faut pas tomber dedans, quoi.
Non, voilà, le vide juridique, c'est deux lois qui s'opposeraient. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Hein. La loi qui dit vous devez pas porter, vous devez être démasqué dans un espace public, et la loi qui dit faut porter un masque parce qu'en ce moment il y a une épidémie. Bon, alors si la première n'est pas abolie, la deuxième, ça rentre en contradiction. Bon. Il y en a peu, hein, quand même. Alors l'aléa juridique, voilà, j'y reviens, l'aléa juridique, l'aléa tout court, c'est que les choses ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer.
Ah oui.
Bon, et ça, c'est le propre du vivant. Hein. Ça aurait dû, et ça n'a pas. Et là, bien souvent, on est triste, et parfois même révolté, à juste titre. Ça existe, ça existe. Et le rôle du juge, c'est de faire en sorte de limiter cet aléa. Voilà. Et le rôle de l'avocat aussi, c'est de faire en sorte qu'on sache où l'on va, voilà, quoi qu'il se passe.
Maître, vous avez choisi une musique. C'est quoi, aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est soit notre ami Bob Dylan, soit notre ami Hugo Frey. Ce sera au choix, mais c'est pour dire « les temps changent ».
Ah.
Voilà. J'aime bien « Times are changing », nous dit Dylan, et « les temps changent », nous dit Frey.
On va l'écouter.
Voilà.
« Les temps changent ».
Soyez accourez, braves gens. L'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants. Admettez que bientôt vous serez submergés. Et que si vous valez la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager. Car le monde et les temps changent. Et vos gens de lettres dont la plume est d'or, ouvrez tout grand vos yeux, car il est temps encore. La roue de la fortune est en train de tourner, et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. Les perdants d'hier vont peut-être gagner, car le monde et les temps changent.
Voilà, c'était « Les temps changent ». Les temps changent, et j'espère que ça va se mettre au beau fixe sur le plan judiciaire. Il nous reste donc quelques petites minutes. Et puis, ça, il faut que les auditeurs et auditrices s'en prennent l'habitude. Nous allons entendre une histoire, parce que nous avons été sages et que cette histoire est tout à fait passionnante. C'est l'affaire du courrier de Lyon.
Ah, l'affaire du courrier de Lyon, en fait, c'est l'affaire d'une erreur judiciaire. En fait, c'est en 1796, on a un monsieur tout le monde, à l'époque on dit un honorable bourgeois, qui est accusé d'avoir participé à l'attaque d'une malle-poste et d'avoir massacré les gens qui convoyaient les fonds. Et c'est une série incroyable de coïncidences, et surtout, elle montre cette affaire, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, c'est la fragilité des témoignages humains. On a un dénommé Le Surc. Le Surc qui est accusé, avec d'autres, d'avoir donc volé une malle-poste. Quand même, il y avait 7 millions d'assignats, hein, c'était quand même des grosses sommes. C'était destiné à payer l'armée d'Italie, donc bon. La voiture a été vidée, les gens ont été trucidés, etc. Et ce Le Surc, en fait, se rend au palais de justice pour des formalités. Et lorsque ces deux, il est avec un ami, et lorsqu'ils attendent dans l'antichambre d'un juge, donc d'une chose qui n'a rien à voir, il y a une jeune femme qui était servante dans une auberge à côté de l'endroit où avait lieu cette attaque, qui s'écrie « Ah, je reconnais cet homme, il fait partie de la bande qui a agressé, etc. » Et en fait, la personne qui accompagnait Le Surc, effectivement, faisait partie de la bande. Mais Le Surc n'avait aucun rapport, aucun lien avec lui. Il l'avait rencontré quasiment par hasard, et ils avaient fait cheminer ensemble, et ils n'avaient pas de relation habituelle.
Quelle coïncidence terrible.
Une coïncidence terrible. Et donc, il se trouve, ce dénommé Le Surc, avec le bandit qui lui a commis ça. Alors, on arrête les intéressés. Et puis, ils ressortent. Alors, je ne sais plus exactement, il y a un doute, ils ressortent. Et par un autre hasard extraordinaire, le Surc est convié à manger chez quelqu'un, chez un ami, qui reçoit un autre des bandits. C'est absolument
inouï.
Oui, c'est absolument inouï. Et alors, évidemment, les audiences, je ne vous passe les détails, mais ça s'enchaîne à une vitesse absolument prodigieuse. Il connaît le premier qui a été reconnu dans l'antichambre du juge, il a mangé avec l'autre, donc il ne peut être que...
Ah bah à la place de la justice, on penserait la même chose.
Évidemment. Et alors les bandits, bien contents d'avoir... Alors, ils étaient très nombreux à faire l'attaque, mais bien contents d'avoir celui-là, disent oui, c'est lui.
Ah, c'est le chef.
Et le type ne peut rien trouver comme élément à décharge. Alors... Les éléments à décharge que présente le Surc sont troublants et le Surc essaie de faire dire à un bijoutier que ce jour-là, enfin il fait dire au bijoutier que ce jour-là, le jour de l'attaque, il était parti faire modifier une bague chez lui. On prend le registre du bijoutier et hop, la page est arrachée. Donc on ne peut pas avoir la certitude. Et donc le Surc est encore plus accusé comme ayant suborné un témoin. Donc vous voyez le profil.
C'est le karma ça.
Attendez. Vous voyez le profil, le type, il est reconnu, enfin, il est avec un bandit dans l'antichambre du juge, il déjeune avec un autre, il prend un alibi qui explose en vol. Bon, voilà. Donc, il est reconnu coupable, et c'est la peine de mort. Et au moment de quitter la salle d'audience, le premier qui était donc dans l'antichambre du juge, hurle en disant non, il n'était pas avec nous, c'est une ressemblance frappante, le véritable coupable s'appelle un dénommé Dubosc. Mais c'est trop tard, il est guillotiné. Et d'ailleurs, sur l'échafaud, le bandit, le premier qui était avec lui dans l'antichambre, dit « le Surc est innocent ». C'est quand même pas banal. Enfin,
ce qui est extraordinaire, parce qu'il ne pense pas à lui, à sa propre vie,
il dit le Surc est innocent.
C'est le bon larron de l'évangile.
Oui, ça doit être ça. Oui. Mais c'est impressionnant quand même. Enfin, c'est,
très impressionnant.
Parce que là, l'heure de vérité, enfin... Ouais. Le juge qui avait instruit malgré tout commence à avoir un doute, donc on parlera du juge d'instruction, il reprend l'enquête et il retrouve le véritable passager de la malle-poste, parce qu'en fait, c'était un type qui était caché dans la malle-poste pour faciliter l'arrivée des voleurs. Et le véritable coupable est un dénommé Durochat, qui avoue sa participation à l'attaque et qui donne le nom des voyous qui étaient avec lui, dont celui qui a été guillotiné et d'autres. Et bien évidemment, on se rend compte que le Surc n'est pour rien dans cette affaire.
Triste histoire que celle du Surc.
Triste histoire. Dernière lettre de Le Surc à sa femme. « Ma bonne amie, quand tu liras cette lettre, je n'existerai plus. Un fer cruel aura tranché le fil de mes jours qui devrait être, etc. etc. » Donc, affaire, une erreur judiciaire retentissante.
On va terminer là-dessus.
Ouais.
Méditez bien ce qui est arrivé à ce pauvre homme. Et on se retrouve bien évidemment le mois prochain pour l'opus 3, troisième opus de L'audience est ouverte. Merci beaucoup, Maître.
Avec plaisir.
Au mois prochain.
Au mois prochain.